Cette semaine, dans le balado, on cherche l'inspiration, on veut la gloire et on part à l'aventure. Bienvenue à mon ciné balado, en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Salut, Jeff.
Salut, salut. Quel est ton arc narratif, toi, dans ces trois choix-là? Tu veux la gloire?
Non, vraiment pas. Je suis toujours à la recherche d'inspiration,
OK,
peut-être.
Voilà, hein? C'est ça.
Ouais. J'aime bien être impliqué dans différents projets créatifs. Mais j'irais pas ça partir à l'aventure, surtout dans le coin de la Nouvelle-Zélande et la Polynésie où se déroule Moana.
Oui, c'est cool, sauf qu'on n'a pas le bon temps. Ça nous prendra un bon écran solaire, nous, hein, pour partir à l'aventure comme
ouais,
ça.
Ouais, ouais.
Un couvre-chef.
Et savoir naviguer sur les océans. Donc, quand même, grosse semaine d'action grâce américaine.
Oui.
Pour beaucoup de films.
Je pensais que tu voulais parler de football.
Ah, puis aussi. En fait, il y a un gros film américain, ce qui est quand même drôle, mais au Québec, il y a beaucoup de sorties.
Ouais, ils sont tous sortis la semaine dernière.
Oui, c'est ça.
Ouais.
Mais au Québec, c'est une grosse sortie de films québécois, mais aussi on voyage autour de la planète cette semaine avec différents films. Avant, un petit tour d'horizon d'actualité. Écoute, une semaine très, très tranquille. Je ne sais pas si toi, tu avais
Ah non, ça va te surprendre, j'ai rien noté.
Ben écoute, tu peux mettre notre jingle. Il faudra avoir un petit jingle. Alerte casting Christopher Nolan.
Ah ouais, ouais. Hey, le pire... on a fait la semaine passée, puis quand j'ai fait le montage, j'ai essayé de trouver quelque chose pour ça. Ben là, c'est parce que quand je suis au bureau, j'ai rien pour comme composer une petite musique. Fait que j'étais là, je vais te chercher un... Mais là, je trouvais ça bizarre d'aller chercher un bout de sa musique de Inception ou de Oppenheimer, alors que comme ça, par rapport avec le prochain film, puis on sait pas le titre, puis on sait pas de quoi ça parle, puis on sait rien. Fait que je sais pas. C'est comme si je mets un son de bombe atomique, mais c'est plus Oppenheimer que le nouveau. Fait que tant qu'on sait même pas le sujet du film, c'est dur de trouver l'effet visuel. Sinon, je peux juste mettre un vulgaire criard.
Nouvelle actrice qui joint le projet de Christopher Nolan et quand même une que moi j'adore beaucoup, Charlize Theron.
Ah oui, ok. Ouais. Se joint célèbre pour le rôle de Cypher dans Rapide et dangereux.
Oui, bien sûr, c'est ce qui a fait ça. En fait, probablement son portefeuille. Oui, oui, quand même.
C'est sûr que oui, c'est plus payant que...
Comme Monster.
Monster, c'est ça. Je cherchais le titre.
Alors, donc, joint déjà une distribution.
Mais moins de nominations aux Oscars, cela dit.
Ouais, c'est ça. Assez impressionnante. On en a déjà, oui. Donc, Matt Damon, Tom Holland.
C'est comme l'arbre est dans ses feuilles. Fait qu'à chaque fois, il faut que tu répètes du début.
Ouais.
Okay.
Zendaya, Anne Hathaway. Et
maintenant, on
est rendu à Charlize. Il me semble qu'il y avait une autre actrice.
Ah oui, Robert Pattinson.
Robert Pattinson, oui, effectivement. Alors,
un gars, une fille.
Voilà pour l'update du prochain Christopher Nolan. Sinon, à noter, le décès, c'était pas un grand réalisateur, mais il a quand même marqué, je pense, une génération.
OK.
Par ses comédies, il était membre d'un trio, le trio Zaz, Zucker, Abrahams, Zucker. Alors, c'est Jim Abrahams qui est décédé, qui sont derrière les films Airplane, Top Secret.
Ah, OK.
Et Jim Abrahams avait également co-scénarisé avec eux The Naked Gun.
Ouais, c'est ça.
Et par la suite, lui, il est allé faire... Oui, il est resté dans le mode de parodie en faisant les deux Hot Shots seul de son côté.
Ah,
quand même.
Cool,
fait que c'était vraiment...
Hot Shots, c'est plus mon âge, c'est-à-dire ça a marqué mon enfance.
Début des années 90.
Parodie de Rambo, puis de Top Gun.
Ouais,
puis,
c'est ça. Donc, quand même, alors, c'est ça qu'on peut dire qu'il a marqué tout le moins le milieu de la comédie au cinéma.
Est-ce que tu penses réécouter à la maison un de ces films-là?
Faire un marathon.
Souligner, peut-être pas tous. Là. Je pense que si tu les écoutes tous en ligne, tu deviens un peu zinzin, là, par exemple.
Mais en même temps, je me tanne jamais, honnêtement. Airplane et Top Secret font partie de mes comédies préférées.
Je crois que j'ai jamais vu Airplane.
Ah ouais, OK.
Je connais le gif celui qui sue abondamment.
Puis Naked Gun, écoute, je pense que je vais me les farcir quand le nouveau, le reboot va sortir l'année prochaine, qui me fait énormément peur.
C'était avec Liam Neeson.
Avec Liam Neeson. Quand même, il faut souligner que les frères Zucker et Jim Abrahams avaient poussé ce concept-là de film parodie. Je pense amorcé par Mel Brooks vraiment dans les années 70. Je pense que c'était le premier vraiment à faire ce genre d'humour-là au cinéma avec Blazing Saddles, entre autres, et Young Frankenstein, High Anxiety aussi, qui parodiait Hitchcock. Mais eux, ils ont mis ça puissance 10 où c'est des gags à la seconde près, puis beaucoup de trucs en arrière-plan aussi. Là, fait qu'il faut être toujours attentif dans ces films-là.
Ouais, c'est dans Top Secret, le fameux gag du téléphone, puis des bottes. Là,
ouais,
les
la
deux,
pizza
là.
Aussi avec le fromage qui s'étire. Ouais. Puis,
c'est là-dedans qu'il y a le train que finalement. Ah, il arrive à la gare, mais ça, c'est juste une question de perspective, mais finalement, c'est la gare qui bouge, oui, ouais, c'est ça. Puis lui, il est immobile, là, ouais, c'est ça. Ah ouais, j'ai envie d'écouter ça.
Eh ben, voilà. Alors, fait que, oui, ben, c'est ça.
Fait que oui, il est mort, c'est ça.
Ben oui,
bon,
que vous voulez dire.
Il devait avoir quand même
80 quand même, ouais, c'est ça. Puis après les Hot Shots, en fait, il n'y a plus vraiment... Tant travaillé, je pense qu'il avait comme co-scénarisé un des Scary Movies.
Ah, ben j'allais dire, c'est un peu la suite logique ben, et qu'eux aussi ils ont annoncé un suivant.
Ouais, mais fait que je sais pas pour quelle raison ça n'a pas continué.
Ah, fait que la comédie de parodie revient en forme, c'est finalement. Ben, si on additionne Naked Gun plus Scary Movie 7-8, là, je sais pas.
Et petit lien vers Moana 2 qui prend l'affiche parce qu'on sait qu'il y a en préparation, en tournage, une version
live action
avec de vrais personnages de,
est-ce
du premier
Rock
Moana.
Est dans le
oui,
live action,
c'est Dwayne Johnson, donc reprend son rôle de Maui.
Ouais.
Mais on l'a photographié alors sur le plateau. Et il y a comme une petite controverse parce que Dwayne Johnson a confirmé qu'il va le porter un muscle suit, un costume.
Ah, pour être encore plus...
Pour être encore plus impressionnant physiquement pour ressembler au personnage de Maui.
Ouais, qui a plus l'air d'un... shape de sumo, mettons, que Ripley avec le six-pack de Rock, là,
ouais.
C'est ça? Ou d'homme fort, là, mettons. Là.
Donc, fait que, ouais, The Rock, donc, confirmé, oui, effectivement, je porte
il va pas y aller intense, prendre 110 livres, puis...
Ouais. Mais non, alors, vive...
Ouais, surtout qu'il a été, il y a comme 50 ans, là.
Ouais, quand même. Mais il demeure exceptionnellement physiquement en forme. Alors,
ouais, c'est ça, mais je pense qu'il ne fait pas des transformations physiques. Sa seule transformation, c'est continuer être toujours de plus en plus fort. Là.
Ouais,
mais
ouais,
il n'est pas en prise de poids, de gras et tout, comme un Matt Damon ou un Christian Bale a fait. Ouais. Là, c'est ça.
Donc, on pourra juger du résultat en juillet 2026. Ouais. Sinon, bande-annonce de petite... en fait, je pense un des gros films québécois de l'année prochaine vient d'annoncer ses couleurs.
Oui, ben c'est très logique parce qu'on y viendra avec la sortie de Mademoiselle Bottine. Eh bien, Imina Film montre leur prochain, les prochaines flèches de leur carquois.
C'est rare qu'on fait ça au Québec quand même, tu sais, de sortir une bande-annonce 7-8 mois d'avance.
C'est pour les gros films d'été, souvent. Deux Femmes en or l'avait fait un teaser, lui aussi, qui va sortir en juillet, puis il avait sorti ça quasiment l'an dernier, l'été passé, je pense, pour les belles-sœurs ou menteuses qui voulaient le placer. Fait que c'est juste pour ça que ça s'en vient, là, mais... Ouais. Les billets sont pas encore en vente. Menteuse, donc, la suite de Menteur.
Ouais.
Fait qu'on n'est plus avec le personnage de Louis-José Houde, mais plutôt celui de Anne-Élisabeth Bossé et Antoine Bertrand. Eh bien, c'est Annélie, je me souviens plus le nom de son personnage.
Elle non plus.
Geneviève, Juliette, Annie. Qui ment comme elle respire, mais pas tout à fait pour les mêmes raisons. C'est-à-dire que celui de Louis-José, il mentait plus pour... se chercher des excuses parce qu'il était toujours en retard ou quoi que ce soit. Elle a ment plus pour pas faire de la peine aux autres, un peu. C'est un peu ça. Là. Fait que, ce qu'on comprend, un petit teaser d'une minute, fait qu'on se retrouve dans la même problématique, que ça va créer un univers parallèle où tous ces mensonges deviennent réalité. Là. Fait qu'on est plus dans le bien paraître de ce côté-là. Non, quelques bonnes blagues, je pense, qui s'en viennent. Là, quand elle est toute liftée et en prison, et enfin, je ne sais pas trop comment le film nous mène à gauche puis à droite. Mais j'ai beaucoup d'attentes pour ça, quand même. Puis honnêtement, j'en avais pas tant pour Menteur. J'étais comme indifférent au film. J'ai vu le film, c'est sympathique et tout. Mais je sais pas comment dire. On dirait que je trouve ça plus facile mettre Louis-José ou un humoriste reconnu dans un rôle comique. Je trouve que là, mettre ça juste sur Antoine, donc il va avoir peut-être plus de présence ou encore peut-être un même rôle secondaire. Puis Anne-Élisabeth, qui a commencé à faire du stand-up, mais c'est plus une comédienne à la base, comédienne qui a fait de l'humour avec les appendices, avec un peu les belles-sœurs aussi, qui a son volet comique là-dedans et tout. Fait que j'ai bien hâte de voir ça.
Oui, moi aussi, mais en tout cas, elle est capable de pousser l'absurdité. Puis c'est aussi l'équipe créatrice qui est derrière ça, donc Émile Godreau, puis
Éric Boulian, entre autres. Il y en a un troisième qu'on oublie son nom, désolé. Guy.
Alors, 9 juillet 2025 ouais. pour Menteuse.
Assurément, un des gros films de l'été ouais. au Québec.
Et un autre aussi, je pense, qui va être très, très gros, c'est la version en prise de vue réelle, mais avec un personnage animé, c'est Lilo and Stitch.
Oh, OK,
droit
ouais.
à sa propre c'est... version remake.
Ben, c'est Disney qui continue
ben, à... Ouais, à exploiter leur catalogue.
Ben là, juste cette année, Blanche-Neige va sortir
ouais.
en mars.
Mars, mai.
Lilo et Stitch en mai, ouais. puis sûrement un autre pour Noël prochain. Là, on a Mufasa 2, qui est comme du faux prise de vue réelle, mais ils le vendent comme du prise de vue
ouais,
réelle.
C'est... Mais... Alors que là, c'est la méthode Sonic, donc on a des comédiens, mais le personnage de okay. Stitch est animé.
Ou un peu la méthode Roger Rabbit, mais en 3D.
Ouais, pas... ouais, c'est ça. Donc écoute, c'est vraiment un très petit teaser, une trentaine de secondes, juste pour montrer le résultat visuel de Stitch, évidemment, et donner l'envie au goût de le goût aux gens d'aller le voir, et surtout d'acheter beaucoup de produits dérivés lorsque le film sera
ah, tu sur penses qu'ils écrans. Font ça?
Je pense qu'il... Un petit peu, j'ai l'impression.
Je n'aurais pas cru qu'il aurait fait le lien.
Mais ce qui est intéressant, c'est le réalisateur, c'est Dean Fleischer Camp, qui a réalisé Marcel de Shell with Shoes On pour
ah,
A24,
oui, oui, okay.
qui était quand même un film assez spécial.
Oui, c'est comme un peu un journal faux, un peu, comment on appelle ça, documentaire.
Oui, donc, fait que voilà, fait que c'est pas un tâcheron, là. Je pense que c'est vraiment un artiste qui est derrière le film de Lilo and Stitch. Alors, à découvrir le 23 mai 2025, si je me trompe pas, qui est la même fin de semaine que Mission Impossible 8, alors oui. tu vas avoir un choix déchirant à faire.
Ah ben oui, c'est ça. La refonte du film que j'ai jamais vu ou la suite.
T'as jamais vu Lilo Stitch?
Ouais, non, c'est dans mon angle ouais, mort de quand j'étais juste trop vieux et on viendra à Moana dans quelques instants, mais
même chose,
je suis pas du tout un spécialiste.
Ben, évidemment, moi, Lilo and Stitch, je l'ai découvert sur le temps parce que j'ai une fille plus âgée, donc ça faisait partie des films qu'on regardait quand elle était petite, mais pas lors de sa sortie originale.
C'était
en
quoi?
Cinéma. C'est 2003 peut-être, okay. me semble, ouais, au milieu des.
Ouais, c'est ça, dans ces années-là.
Sinon, pour les fans de Pedro Almodovar, son premier film en anglais, c'est quand même dur à croire avec
oui,
ta carrière qu'il y a. The Room Next Door, qui prendra l'affiche en janvier,
ouais,
quelque part, janvier
17 de okay. mémoire au Québec.
Qui a quand même remporté le Lion d'or à Venise. Donc, il met en vedette Tilda Swinton et Julianne Moore. D'anciennes collègues de travail, amies, peut-être même un peu plus, qui se revoient après plusieurs années alors que l'une d'elles est mourante.
Exact. Et ouais, puis je pense qu'elle est en perte. C'est plus qu'elle est en perte cognitive aussi.
Ça se peut, ouais, c'est ça. Donc, ouais. drame. Bon, assez touchant, mais en même temps, il y a l'air d'avoir un côté visuel assez éclaté. De ce qu'on a vu dans la bande-annonce, une mise en scène un peu fantaisiste.
Ouais, puis dans une espèce de grande maison impossible, ouais. fait qu'il y a beaucoup de mystères autour de ça, mais j'avoue qu'Almodovar, c'est quelqu'un que j'ai découvert sur le tard
ouais,
dans ses derniers films, mais il faudrait beaucoup que je m'y plonge parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu. Alors, je trouve que c'est une grande sensibilité de cinéma qui me rejoint énormément.
Ouais.
Et surtout qu'il y a comme Penélope Cruz dans la moitié de ses films, puis elle est toujours brillante. Fait que...
Et qui laisse, depuis ses débuts, vraiment une grande place aux femmes, aux actrices, aux jeux féminins, tout ça. Fait que c'est intéressant. Alors, voilà pour les bandes-annonces. Je sais pas si toi... Oui, tu avais relevé...
Non,
c'est bon.
Non, j'avais juste une menteuse, puis on a parlé.
Ben super. Allons-y donc avec les sorties de la semaine. Débutons... Avec notre film québécois,
yes.
allons-y, avec Mademoiselle Bottine de Yann Lanouette-Turgeon.
Oui, alors c'est Les Contes pour tous. Ils sont de retour pour durer, car il y avait eu Coco Ferme il y a 2 ans. Et là, c'est au tour de Mademoiselle Bottine, qui est une relecture de Bac et Bottine. C'est pas un remake, on fait juste reprendre cette idée-là de la jeune fille qui se retrouve orpheline, qui aime les animaux, dont une moufette, qui se retrouve chez un mononcle qu'elle connaissait pas, qui baigne dans la musique. Qu'est-ce qui se passe exactement ici, plus en détail? Alors, la jeune Simone de 11 ans, après le décès de sa grand-mère, se retrouve confiée aux services sociaux. Mais en attendant qu'on lui trouve une famille d'adoption, son oncle Philippe, donc le frère de son père, va la prendre. Il n'a pas le choix de la prendre, mais lui, ça ne fait pas non plus son affaire pantoute parce qu'il est dans une période de rush où il faut qu'il termine un opéra qu'il doit livrer. C'est un compositeur de musique. Mais il n'y a comme pas d'inspiration, il y a bien de la misère à rendre ça, et il souffre d'une bonne anxiété sociale et d'agoraphobie, fait que ça fait beaucoup de choses à gérer dans sa vie, et elle qui se retrouve sans grand-mère, doit quitter la campagne, arriver dans un condo en ville, aller à l'école alors qu'elle n'y allait plus, fait que les deux, il y a un choc de pas des cultures, mais
de personnalité.
De personnalité, puis de routine.
Il reste une tempête d'énergie, il faut le dire.
Voilà, donc, au grand cœur qui veut sauver tous les animaux. Fait que c'est un film familial, donc est-ce que leur rencontre permettra de les aider à fleurir chacun de leur côté? Et peut-être voudra-t-il plus ne la confier à une famille inconnue, mais peut-être s'attachera-t-il trop tard pour pouvoir avoir la garde de la jeune Simone?
Donc, même si c'est une relecture de Bac et Bottine, c'est toujours audacieux de s'attaquer à un monument du classique du cinéma québécois. Alors, ouais. Qu'en as-tu pensé?
Moi, j'avoue que j'ai pas tant de souvenirs de Bac et Bottine parce que je l'ai vu comme très jeune, puis c'est pas celui que j'ai le plus vu. Fait que je sais qu'il y a Ma Épaiement puis La Moufette, mais exactement le détail et tout, je m'en souvenais pas. Mais j'ai adoré ça, Mademoiselle Bottine. J'ai adoré, je vous dis quand même, c'est un film familial. Il y a certaines ficelles ou cordes qui peuvent être évidentes. Pas du côté de La Moufette, pas un toutou qu'on tire avec une corde, mais s'il y a des affaires qui sont arrangées avec le gars des vues, comme on dit.
Ouais, oui.
Mais je trouve ça super charmant, puis c'est une sortie familiale ou un peu nostalgique qui est super bonne. On pense au ciné-cadeau, on arrive au 1er décembre en fin de semaine. C'est comme les 25 jours vers Noël, ce film-là va être à l'affiche pendant le temps des fêtes. C'est vraiment une très belle sortie. Tu sais, familiale, mais aussi je pense que je saurais jamais comment ça serait, mais je pense que si j'avais un enfant de 14 ans mais qu'on avait écouté ce genre de film-là, j'irais pour la vibe famille, nostalgie, tu sais, c'est super beau. Puis Antoine Bertrand, il est génial parce que c'est un contre-emploi, en fait, là. Antoine, ouais.
Assez extraverti.
Ouais, c'est ça, tu sais, il prend de la place.
Un peu d'anxiété sociale.
Exactement, fait que là, c'est l'inverse, c'est celui qui est en retenue, qui veut pas trop rencontrer les gens, qui spin dans sa tête à l'infini et tout, fait que ça a l'air naturel parce qu'il y a beaucoup d'entre-gens et de charisme. À l'écran, il est scintillant dans ses yeux et tout, mais c'est pas lui, ce personnage-là, pas du tout. Fait que puis le jeu qu'ils ont construit les deux ensemble, on leur a parlé en entrevue, puis c'est rendu une grande famille là. Puis certains films où des fois on dirait que ça colle un peu moins, mais la plupart quand ils tournent avec des enfants, beaucoup comme ça, ils s'attachent réellement. T'sais. Fait que toi,
je pense pas que
t'as détesté.
Ah non, j'ai bien apprécié moi aussi. Je trouve que Yann Elouet Turgeon a fait un très bon travail au niveau de la réalisation.
Ouais, puis il a pas fait ce genre de cinéma-là, ni d'émission télé. Là. Il était plus dans Roche-Papier-Ciseaux. Là. Il est attaché à Villeneuve, les séries X-13, Les Pays d'en haut, là où il a connu Antoine.
Imposteur aussi, avec Marc-André Grondin. Fait que...
Plus dans l'action-drame que, côté famille.
Et non, fait que tu sais, Dominic James, qui est maintenant le grand Manitou des productions La Fête, qui est aussi le scénariste du film. Je trouve qu'il avait un bon scénario, c'est intelligent, qui respecte bien les codes du genre. Donc, vous allez être touché, c'est certain. Là. On vous met au défi de ne pas avoir une petite larme à l'œil par certains moments.
Oui, puis tu sais, il y a comme un double travail de musique, c'est-à-dire que tu as la musique du film que nous, on voit, mais tu as aussi la musique qu'il crée pour son opéra, pour l'ancien opéra qu'il y a eu, qui avait du succès. Fait que c'est super motivant et émouvant à la fois, tu sais.
Et Antoine Bertrand et Marguerite Laurence forment une paire incroyable. Et évidemment, Marguerite Laurence qui fait des petits rôles ici et là, mais là, c'est vraiment un premier rôle, un au cinéma et d'importance. Je pense que c'est un visage qu'on va voir encore pendant très longtemps.
On va voir grandir à l'écran.
Oui, c'est certain. Là.
Puis, on a sorti, en fait, deux épisodes spéciaux autour du film. Ils sont déjà en ligne. Peut-être les avez-vous écoutés ou peut-être que non. On vous invite à le faire. Il y en a un avec l'équipe du film, donc avec Yann, Antoine et Marguerite. D'ailleurs, qu'on apprend là-dedans, je leur ai posé la question parce que j'étais comme, ben tu sais, La Petite et le Vieux, c'est sorti en même temps. Les deux, vous avez dû tourner il y a un an. Ça devait pas mal se rouler en même temps. Fait que Marguerite a dit, oui, j'ai fait les auditions des deux, puis j'ai reconnu d'autres faces qui ont aussi fait ça. Puis comme il mentionnait, j'avais oublié, mais Marilyn Castonguay est dans les deux films. Oui. Fait qu'Antoine disait, des fois, on finissait le soir, puis elle partait pour dormir à Québec parce que le lendemain matin, elle tournait. C'était vraiment en même temps, ces deux trucs-là. Fait que, puis je veux dire, aucun film enlève l'un à l'autre. Là. C'était pas ça l'enjeu. C'était juste, je me demandais au niveau du casting. Puis l'autre épisode, écoute, on va essayer de faire ça plus souvent. On a passé une demi-heure, on aurait pu prendre un 15-20 plus, on aurait eu du matériel. Avec Dominic James, justement, j'ai appelé ça artisan du cinéma. Oh, je sais que des fois, artisan, c'est plus les métiers techniques, mais côté producteur, scénariste, puis tu sais. C'est pas quelqu'un, Dominic, qui est qui a toujours voulu faire du cinéma puis qui a mis le pied là-dedans un peu à la Xavier Dolan, qui a tout... Ben, tout le monde a un parcours intéressant, mais lui, il a commencé dans le hockey. Ouais. Mais dans le hockey, prep school aux États-Unis, tes études sont payées parce que t'es gardien de but pour nous. Puis à un moment donné, il s'est mis à faire plus des trucs artistiques. Il a dit, bon, il faut que je choisisse le cinéma. Mais il est allé faire ses études à Los Angeles, mais pas dans une université, juste des cours à gauche, à droite, ça et là. Jusqu'à temps que tout ça le ramène au Québec dans des films, puis des... il était pas tout à fait à sa place, pas tout à fait son
X. Comme réalisateur.
Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Voulant être un peu le prochain Tarantino, ou des choses comme ça, ou David Fincher, tu sais. Puis, qu'est-ce qui l'a mené à acheter, finalement, les productions La Fête, les Comptes pour tous quand c'était en vente, puis que aussi, quand tu commences ça, ben, t'as pas un film à sortir l'année d'après, faut que tu recommences ton financement et tout. Fait que super cool, il y a beaucoup d'entre-gens lui aussi. Oui, j'ai vu qu'il a fait d'autres entrevues là, dans le journal de Montréal, des trucs comme ça. Fait que,
très, très charismatique, ouais. Peut-être pas pour rien, parce que c'est le fils de Claire Pimparé, de Pascaro.
Oui, l'original Pascaro.
L'original quand même. Donc oui, une très belle conversation, honnêtement, super intéressant, super gentil aussi. Puis, souligner quand même pour le magazine Mon Ciné, ben, on a aussi un entretien avec Antoine Bertrand, oui, qui fait la couverture, que j'ai eu l'occasion de réaliser, où on revient un peu plus sur son parcours cinéma en général aussi. Mm-hmm. Donc... du gros stock Mademoiselle Bottine.
C'est ça. Ah, puis ouais. J'ajouterais même, ça, c'est pas toi qui l'as fait, par contre, mais il y a un texte sur... on en vante le nouveau magazine pour décembre, janvier, février, donc vient d'arriver dans les kiosques numériques et physiques. Sur les animaux au cinéma,
ouais, ben
parce
oui.
qu'on fait référence un peu à la fameuse moufette, mais juste comment ça fonctionne en général, puis on a eu un entretien avec une, ben pas nous, mais la personne qui a écrit le texte, je me souviens plus c'est qui.
C'est Marie Lefebvre, qu'on salue, bonjour.
Fait avec une dresseuse d'animaux qui parle aussi des autres projets, célébrités et autres qu'il y a eu là-dedans, fait que super cool papier.
Donc, absolument à voir si vous voulez un beau film ouais, en famille.
C'est pas allez-y. Bébé, c'est non, vraiment... Non, vraiment c'est les Contes pour tous, c'est hautement réussi. C'est ce fleuron est entre bonnes mains.
Ouais. Alors, restons du côté familial avec Moana 2.
Ouais, écoute, j'ai noté le scénario, le synopsis.
Ouais.
Mais moi, je connais rien à Moana. Fait que tu me corrigeras si ça fait pas de sens. Là.
Okay.
Je sais même pas qu'est-ce qui se passe dans Moana 1. Je connais rien à ça.
Fait que c'est une fille qui a des émotions à l'intérieur d'elle.
Oui, c'est ça, exactement. on est c'est les Maui. On est sur l'île de Montunui. Fait que c'est comme des descendants hawaïens, un peu. C'est tout ça? Ou même pas?
Oui, mais écoute... tout ce coin-là du monde.
Parce que c'est pas pour rien que c'est The Rock, c'est Dwayne Johnson qui fait des voix, puis tout, parce qu'il est très attaché à ça, parce que toutes les autres voix sont pas tant connues, ils prennent des gens un peu plus locaux, justement. Fait que, bref, la fille du chef de la tribu de l'île de Montunui, dans le Pacifique du Sud, Moana est très triste parce qu'elle trouve qu'il n'y a personne sur les îles environnantes et tout. Puis, au cours d'une cérémonie qui va la sacrer grande guide de sa tribu, donc cette jeune Polynésienne va voir une vision, ouais, voir une vision, c'est beau ça. Une troublante vision qui va donner des réponses à ses questions. Car il y a longtemps, Nello, une espèce de dieu vengeur, avait entrepris de disperser et désunir les nations de l'Océanie en engloutissant l'île de Motufetu, je ne sais pas comment il le prononce, qui était l'espèce de point de jonction de tous ces peuples. Fait qu'il a comme cassé le bar où tout le monde allait prendre un Mai Tai.
Oui.
Fait que Moana va comprendre que sa nouvelle mission va consister à rétablir ce lien et elle va demander l'aide de son ami, le puissant demi-dieu Maui, donc la voix de Dwayne Johnson. Ressemble-tu à ça?
Oui, ça ressemble, okay. Ça vient du bon sens. Petit retour sur le phénomène Moana qui avait bien fonctionné.
C'était quoi,
2016, me semble.
Ah, ok, crème, je pensais que c'était plus vieux que ça.
Non, quand même, mais qui est vraiment devenu un phénomène culturel dans les dernières années à cause de sa présence sur les plateformes de streaming, donc de Disney+. Et l'an dernier, en 2023, ça a été le film en plateforme qui a été le plus écouté, toute plateforme confondue.
Ah oui, ok.
Quand même, fait que je sais pas qu'est-ce que... pour déclencher ça, probablement des trucs sur TikTok ou whatever. Mais les jeunes se sont mis à capoter Moana, dont la mienne, qui je pense, est son film d'animation Disney préféré.
Okay.
Donc, les attentes étaient très grosses. Puis, dans le fond, Disney a comme surpris un peu tout le monde lorsqu'ils ont annoncé ce projet-là, parce que c'était destiné à être une mini-série sur la plateforme à l'origine. Et là, je pense qu'avec l'année un peu catastrophique l'an dernier de Disney...
Je pense qu'ils ont vu un potentiel commercial à ça.
Je pense qu'on dit qu'il faut aller avec des garanties pour 2024. Alors, ils ont retravaillé, remanié le scénario pour en faire un film. Donc, écoute, pour les fans de Moana, je pense que vous allez bien aimer. Je vais avouer que ça ne transcende pas le premier film. Là. On n'est pas, c'est pas un Inside Out 2. Là. Mais ça demeure un divertissement quand même de qualité. Ouais,
c'est pas
bizarre,
ça, c'est vraiment juste Disney Animation.
Oui, c'est vraiment Disney Animation. Donc, évidemment, tout l'environnement, nécessairement le lieu, la mer, tout ça, c'est beau à voir. Évidemment, les petits personnages, le poulet et le cochon sont très cute et ils vont vendre beaucoup de peluches de ces personnages-là.
Il était-tu dans le premier ou c'est juste dans
le poulet était plus présent, faisait partie de l'aventure et non le cochon qu'on voyait. Donc, c'est ça. Alors, écoute, c'est comme on dit, du bon feel good, on est là pour avoir le sourire.
What you see, what you get.
Ouais,
là.
Comédie musicale aussi, il faut le souligner, il y a quand même beaucoup de chansons.
Classique Disney, ouais.
Fait que voilà. Alors, Moana 2, je pense qu'il n'y a pas besoin de le vendre plus parce que si vous avez aimé le premier, de bonnes chances que vous allez aller voir
Penses-tu
le deuxième.
Penses-tu que si
tu n'as
pas vu le premier, on peut rentrer dans le deuxième?
Oui, quand même, ça contextualise rapidement le premier film. Là. Fait que,
c'est une nouvelle aventure plus qu'une suite, là, ouais. D'une certaine façon.
Oui, c'est ça. Ce n'est pas une suite directe aux intrigues du premier film. On sur de nouvelles bases.
On continue en chanson?
Allons-y avec M. Aznavour de Grand Corps Malade et de Mehdi Idir.
Oui, biopic, donc biographie musicale de Charles Aznavour, sur Charles Aznavour, en fait. Fait que ce qui est arrivé, c'est que Charles, quand il était jeune, c'était un fils de réfugié, il était petit, il était pauvre, il avait un gros nez, il avait pas une belle voix, fait que ça marcherait jamais ses affaires. Mais à force de travail et de persévérance et d'une volonté hors norme et peut-être de bons contacts et d'avoir croisé le chemin d'Édith Piaf,
ça aide un petit peu.
Charles Aznavour est devenu un monument de la chanson et un symbole de la culture française. Fait qu'on va suivre son aventure dans ce qui est quand même un biopic assez classique, là, justement, de remonter sa jeunesse, un peu les difficultés de sa famille qui sont, c'est pas algérien,
arménien,
voilà. Mm. Qui arrive en France, qui trouve ça rough. Puis quand il commence à faire de la musique aussi, on est pendant la guerre mondiale, pendant l'occupation, en quoi, 42, justement, une affaire comme ça. Fait que, tout le monde le rough. Puis je savais pas que son parcours l'avait amené aussi jusqu'à Montréal.
Moi non plus, j'ai
appris jusqu'à
ça.
Serge Postigo, en fait, plus exactement. puis c'est ce qui m'a aussi surpris dans la production, c'est que c'est pas une coproduction. Des fois, il y a ça, France-Québec, mais c'est vraiment juste une production 100% française, mais ils sont venus... je sais pas s'ils sont venus le faire à Montréal, ou s'ils ont juste amené 2-3 Québécois en France qui seraient peut-être moins dispendieux.
Ouais, puis écoute, je sais que Postigo a joué aussi dans des comédies musicales en France.
Okay.
Et peut-être qu'il était déjà là, puis ils sont allés chercher à cause de ça. J'ai l'impression que ça peut ressembler à ça.
Fait que voilà. Puis la Marie-Julie Baupe, qui est peu connue jusqu'à présent, joue Édith Piaf et
Vole le show.
Je pense qu'elle la joue mieux que Marion Cotillard dans La vie en rose, là, tu sais. Mais au moment très cinglant, là, peut-être que la manière qu'elle le joue sur tout un film, ça aurait été peut-être plus lourdeau, là. Mais ça fait longtemps que j'ai vu La vie en rose. C'est Taha Rahim qui incarne le célèbre Charles Aznavour. Taha Rahim qui est... Peut-être c'est un nom que vous connaissez moins, mais c'est une face très connue. On t'a découvert beaucoup avec Un prophète de Jacques Audiard il y a comme 10 ans de cela. Puis il a joué dans plusieurs trucs. Il a fait le méchant dans le dernier Madame Web.
Ah ouais, t'es
non,
dans...
mais ça a fait un peu scandale parce qu'il faisait le méchant qui leur court après, mais les Américains n'aimaient pas son accent. Fait qu'ils ont pris Taha Rahim et ils ont redoublé sa voix.
Ah, je savais. Il jouait aussi dans le Napoléon de Ridley Scott, donc quand même une carrière à l'international.
Ouais,
et surtout dans les dernières années, pour les amateurs de Netflix, il jouait Charles, mais j'ai oublié son nom de famille, dans la mini-série Le Serpent.
Ah oui, oui.
Qui avait fait jaser énormément.
À cause aussi de la Québécoise qui n'était pas du tout québécoise.
Oui, c'est ça. Mais qui avait connu un grand succès en sortant en pleine pandémie.
Oui, puis on dirait que j'ai pas noté, puis j'oublie tous ses films, mais il a fait plein de films.
Oui,
il
oui,
est excellent.
Quand même. Écoute, comme tu l'as dit, c'est vraiment classique pour Monsieur, Madame, tout le monde. Cassez-vous pas la tête. On aurait pu être... gratter peut-être un petit peu plus au niveau du scénario certains éléments, mais on leur pardonne parce que dans le fond, c'est de mettre en valeur Aznavour et sa musique qui est très présente. Fait qu'on entend tous ses grands succès, de la façon que ça a été un peu créé. D'ailleurs, le film est construit par tableau, qui est quand même intéressant.
Uh-huh.
Oui, tu l'as mentionné, Marjorie Bob, qui est vraiment très, très bonne. Mais je vais y revenir parce que j'ai eu la chance d'interviewer Tahar Rahim et il m'en parlait en très grand bien. En fait, elle est très connue dans le milieu français au niveau du théâtre.
Okay.
Mais là, c'est la première fois vraiment au cinéma où elle peut être mise de l'avance. Et d'avoir cette Édith Piaf-là correspondait plus à la Piaf que Aznavour connaissait, où elle était très moqueuse et blagueuse, elle pouvait être un peu incisive aussi.
Ouais, puis même pas être tranchant. Ouais, aussi, c'est ça. Tu ne sais pas si elle taillé ou si elle veut blaguer.
Ouais.
Là, ouais.
Mais vraiment à voir aussi pour Tahar Rahim qui fait un job incroyable. Il faut dire que c'est lui qui chante aussi à l'écran, j'étais pas certain.
Non, c'est pas lui qui chante.
Oui, non, c'est lui qui chante. Il me l'a confirmé et autant Grand Corps Malade.
Eh hey, ben là, OK, ouais. Parce que c'est drôle parce que toute la promo, moi j'avais entendu l'inverse, qu'il avait gardé les vraies chansons puis que c'était du lip sync.
Fait que non, non, c'est vraiment lui.
Fait que finalement, c'est à s'y méprendre.
Ouais, ouais, ouais. Fait que, c'est lui qui s'est entraîné 6 mois pour le faire. Puis même que ils ont dû retourner, en fait, il est allé retravailler les chansons parce qu'à la fin, il était rendu meilleur qu'au début. Alors, il y a eu quand même une progression vocale, fait qu'il retourne en studio pour réenregistrer certains passages du film.
Mais, grand débat, est-ce que ça se peut qu'il... Parce qu'il y a beaucoup de scènes où il chante puis il est accompagné au piano avec son ami Pierre, je sais plus qui, là.
Ouais.
Puis là, ils runnent à deux longtemps. Que là, il chante pour vrai, mais que quand c'est vraiment la bohème, par exemple... Ah, mais en même temps, il y aura un clash si on...
Ouais, c'est ça.
OK.
Non, moi aussi, j'étais sceptique, mais ils m'ont confirmé, en tout cas.
OK.
En jasant que c'était ça. Il a même appris le piano, d'ailleurs, aussi. Fait que c'est lui qui joue.
Ouais, c'est pas un rôle que tu peux prendre à la légère.
Non, vraiment pas. Il s'est vraiment investi. D'ailleurs, dans l'entretien qui sera en ligne bientôt sur le site web de Mon Ciné, il a hésité quand même quelques jours parce que c'était comme une offre surprise. Il s'était jamais vu jouer Charles Aznavour.
Puis ça n'a pas été des auditions, il a proposé.
Oui, tout à fait, c'est ça. Parce qu'il connaissait bien Grand Corps Malade et Mehdi Edir. C'est un de leurs amis. Fait que, il parlait déjà du film au moment où il était en pré-prod, qu'il avait ce projet-là en tête. Il lui avait cité à tout ça, puis...
Ouais, sans jamais penser sans que ça
serait lui,
vers
finalement.
Lui,
là, fait que...
Quasiment sûrement en disant hey, « je voudrais pas être celui qui est pogné pour jouer ça.
Ouais, » ouais. Donc, non, un film, puis je trouve au niveau des décors, reconstitution historique, qui est très bien fait aussi, là, parce qu'il part des années 20 jusqu'à plus récemment. Peut-être que ça serait dans les années 70, là, si ma mémoire est bonne. Je pense pas qu'on va au-delà de ça. Mais la reconstitution historique est vraiment bien faite.
Ah, il y a du budget.
Oui, quand même du budget. Puis c'est juste leur deuxième film, quand même, à Grand Corps Malade, Vie immédiate dire. Oui,
il avait fait Patient, qui était un peu inspiré de l'histoire de Grand Corps Malade, ça, là, de ses problèmes de santé.
Quand même, ça a dû être un peu stressant, gérer ce genre de projet-là. Fait que bref,
tu as parlé à Grand Corps Malade aussi?
Oui. Fait que j'ai les deux.
Comment ils travaillent à deux, leur dynamique? Ils l'ont-tu dit un petit peu?
Ils travaillent quand même pas mal en symbiose, les deux.
Comme les Russo.
Ouais. Mais non, tu sais, un peu... Je pense qu'ils travaillent énormément leur pré-production. Fait qu'une fois qu'ils arrivent en production, ils savent où ils s'en vont. Fait comme ça, si quelqu'un vient les voir, ils ne se feront pas contredire. Puis même en tournant, ils vont de manière... un peu organique, tout simplement. Fait que les deux travaillent tous les aspects, tant la déco, la production même que le jeu des comédiens. Deux beaux entretiens à aller lire. Et un gros coup de cœur pour Tahar Rahim, qui est super sympathique, honnêtement. Puis, tu sais, des fois, tu fais des entretiens, c'est intéressant, mais l'interviewer, il ne va pas te développer tant que ça, répond bien à tes questions, mais tu sais... Il n'aborde
ouais,
pas
c'est
plus.
Ça, courtois plus que hautement sympathique,
mais lui,
mettons.
Mais écoute, c'était
un vrai Antoine Bertrand.
Une chaîne vraiment. Là, fait que, écoute, c'est intéressant parce qu'il donne beaucoup, beaucoup de jus. Fait que vraiment, à voir, vous aimez Charles Aznavour, ben, vous allez aimer ça, c'est certain. Même quelqu'un qui ne connaît pas trop Aznavour, je pense que ça peut être intéressant à voir, ne serait-ce que pour le legs qu'il a laissé. C'est un des monuments de la chanson francophone, qui a une carrière à l'international aussi. C'est un des chanteurs les plus connus
pas
dans
juste
le monde.
France-Québec. Là,
non, écoute, aux États-Unis, il est très, très connu. connu, allait faire beaucoup de concerts. Fait que j'ai appris beaucoup de choses, moi aussi, sur sa vie. Puis il y a quelques moments assez touchants dans le film, là, tout le passage avec son fils aussi, là, qui est son premier enfant, qui avait certaines difficultés entre les deux. Donc,
oui, puis il fait partie de ces artistes et vedettes internationales.
La carrière primée sur sa famille.
Oui, puis aussi qu'il est un peu comme un marin, il y avait peut-être un peu une femme à chaque part.
C'est ça. Il faut quand même souligner, il est décédé il y a quelques années, à l'âge de, c'était 93, quelque chose comme ça, dans les années, qui faisait encore des concerts, là, jusqu'à tout récemment. Fait que, c'est vraiment une machine incroyable.
Est-ce que toi, c'est un artiste qui a joué quand tu étais jeune ou quoi que ce soit?
Écoute, c'était pas présent dans ma famille. Je connaissais un peu, plus du côté de ma blonde, qui sont très francophiles comme musique. Mais moi, j'ai découvert dans un film, L'Appartement, avec Vincent Cassel et Monica Bellucci.
OK, mais sa musique 96, pour lui jouait dans le film?
Sa musique, okay. Parce qu'il y avait une chanson thème, Le Temps, qui revenait dans le film, qui avait un rôle important aussi. Fait que ça m'a fait découvrir Charles Aznavour. Et Denis Villeneuve aussi l'avait utilisé dans Maelstrom.
Ah, je l'ai jamais vu.
Fait que ces deux-là, à peu près dans les mêmes années, je pense Maelstrom aussi, je pense comme 97-18 peut-être. Ouais. Là. Fait que j'avais comme 20 ans, je m'étais acheté son CD des grands succès.
Ouais.
Puis, non, je dois avouer que j'aime beaucoup, beaucoup son style musical qui fait big band, crooner un peu, la
Sinatra. Mais t'avais-tu acheté le CD ou la cassette?
Non, j'avais. Non, dans ces années-là, c'était le CD.
98, il y avait encore les deux, ça chevauchait.
J'étais rendu ailleurs.
Ben, c'est parce que t'aurais pu avoir une vieille Tercel avec un tape deck où tu mets la cassette, qui a le fil, que
dans
tu
les
branches
autos,
ton.
Ouais, dans les autos, c'était encore cassette, je dois avouer.
Pas moi, à part si mes parents vont me dire, voyons, de quoi tu parles, mais il me semble que c'était pas l'artiste qui jouait le plus, mais sûrement qu'ils trouveraient ça insultant, je veux pas leur dire qu'ils écoutaient pas ça ou quoi que ce soit, mais c'était, j'ai pas souvenir que c'est ça qu'ils jouaient tout le temps et tout, mon éducation s'est faite par après. Il me semble qu'il devait avoir aussi une de ses tunes dans la grande époque, Joe Dassin et les succès, Le Lait, là, les disques Le Lait, puis les pubs.
Moi qui prenais les classiques de la chanson française.
Ouais, fait qu'à un moment donné, on dirait que je le connais de la culture populaire, mais je suis pas un spécialiste de ses œuvres à part genre La Bohème. Là. Mm-hmm. Fait que non, j'ai trouvé ça très intéressant pour ça. Puis il est pas trop, tu sais, on voit le processus de composition de certaines chansons, mais c'est pas trop vulgaire. Comme, en tout cas, mon meilleur contre-exemple, c'est genre Queen. Oui. Là, je tape dans mes mains, puis c'est comme le lendemain, tu joues ça devant 100 000 personnes. Là, pas de même, ça se passe. Fait qu'on tombe pas trop là-dedans, non. Surtout que lui est plus dans aussi l'écriture des paroles, puis ces choses-là. Puis il y a une écriture très singulière qui est quasiment poétique aussi, que peut-être qui est plus un courant de grandes chansons françaises et tout, mais qu'on voit moins de nos jours. Là, c'est pas comme écrire un hit, là, c'est vraiment écrire. C'est un style de musique différent. Oui. Le pianiste, tu fais ton show avec un orchestre à cordes un peu, puis des choses comme ça. Tout le setup est.
Et il était très à contre-courant aussi pour son époque, les années 50-60. C'était plus ce genre de musique-là qui était nécessairement à la mode non plus.
Okay.
Fait que. On était beaucoup dans le chansonnier, Brel et tout ça. Et,
Brassens
et l'autre aussi qu'on croise dans le film. Là, j'ai oublié son nom. Un des premiers, en tout cas, bref.
Ouais, j'ai oublié. C'est vrai. Ça fait quelques semaines que j'ai vu. Oui, on était avec Félix Leclerc, par exemple, genre-là. Où je voulais aller? Ah oui, je suis juste dérivé, je parle pas de cinéma. C'est juste j'ai remarqué aussi que c'est drôle parce que, vu que tu mentionnes, il faisait comme de la musique que, mettons, que lui écoutait quand il était jeune, mais vu qu'il était rendu à 25 ans, ben c'est déjà démodé un peu, cette affaire-là. Mais là, aujourd'hui, je vois ça, il y a plein de bands de musique de jeunes qui ont comme 19-20 ans, puis ils remettent des chandails des shorts d'équise, puis des chandails de marques de skate, puis de souliers de skate, okay. Des Vans, puis ils font de la musique qui ressemble vraiment, ça serait comme du Neo No Doubt, genre, mettons, là, que ça, c'était big en 2000, puis en 98, puis là, ils font ça 20 ans plus tard. Fait que c'est comme une nouvelle vision avec une prod un petit peu plus... contemporaine, mais ouais, c'est ça, mais dans quand même un style musical qui veut aller rechercher ce que probablement eux, leurs parents écoutaient. Là, si j'avais justement 45 ans puis que j'avais un enfant de 18 ans, ben probablement que c'est ça. En tout cas, fait que c'est très drôle, c'est vieillissant et un peu bizarre. Genre. En tout cas, fait que probablement qu'il a créé ce même effet-là. Fait que sur le coup, t'es comme, on fait plus ça, mais finalement, tu pognes juste la même tranche d'âge. Anyway. D'autres sorties, on a vu des films, je sais pas comment dire sans être péjoratif, là, de grand cinéma, du cinéma international, donc plus niché, donc on est beaucoup moins large que Moana, par exemple. On commence par Au-delà de la lumière, ça te va-tu? Drame indien connu internationalement sous All We Imagine as Light de Payal Kapadia. C'est deux dames, une un peu plus vieille que l'autre.
Deux colocs,
mais qu'on comprend quand même nouvellement colocs. Ouais. Les deux sont infirmières et elles vivent à Mumbai. Puis, tranquillement, il y en a une qui... on va comprendre que son mari, il vit plus là. Il est dans un autre pays, puis il donne pas vraiment de nouvelles. Ouais. Sauf que...
On dirait que c'est un mariage arrangé.
Ouais,
aussi,
c'est ça. Ouais. Mais elle, elle honore ce mariage-là. Ouais. Donc, elle rencontre personne d'autre, puis elle a pas d'enfant. Puis, elle espère qu'il va redonner des news. Mm. Et sa coloc, qui est un peu plus jeune, c'est Anu. Elle est un petit peu plus insouciante de l'image publique et tout. Puis elle commence à dater, tomber en amour avec un jeune homme, sauf que lui, il est musulman. Fait que elle, je sais plus c'est quoi, mais ils peuvent pas vraiment être hindou. Fait que c'est pas très bien vu de deux religions différentes de dater, ni pour sa famille à elle, ni pour sa famille à lui. Fait que les deux vivent comme chacun en vase clos, mais à travers différents événements qui vont arriver dans le film, vont comme connecter l'une avec l'autre et se soutenir d'une certaine façon. Parce que je voyais des synopsis que, honnêtement, je pensais que c'était une histoire homosexuelle.
Okay.
Puis finalement, c'est vraiment pas ça.
Non.
Parce qu'il disait comme ces événements vont rapprocher les deux femmes et vont peut-être découvrir une nouvelle histoire. Ou fait que j'étais comme, c'est un film LGBTQ? Puis c'est comme, non. Fait que, ouais, voilà. Puis c'est la forme du film qui est intéressante aussi, c'est-à-dire surtout son rythme. Tu sais, on traite de solidarité féminine là-dedans, dans un pays où c'est plutôt patriarcal et tout, ce qu'on comprend.
Mm-hmm.
Mais on est dans un rythme assez lent où la musique nous accompagne, puis un ton feutré aussi des conversations. Il n'y a pas vraiment de monde qui crie après les autres ou quoi que ce soit. Et tout ça nous mène tranquillement vers une forme de réalisme magique qu'on appelle. Donc, quelque chose que, pas tout le film, mais certains événements, sont-tu vrais ou sont pas vrais, là? Puis est-ce que c'est pas clair, là? Ils font pas un trip de drogue ou quoi que ce soit. Fait que t'es comme, OK. Fait que c'est une forme de poésie qu'on a vue un peu récemment, peut-être dans Jour de chasse, qui lui est un petit peu plus intense dans cette forme-là, tu sais. Puis, comme je disais, c'est un film international. Il a gagné le Grand Prix à Cannes. Il était en nomination pour la Palme d'Or, mais le Grand Prix, c'est un peu comme la deuxième place, d'une certaine façon. Plus aussi le prix des cinémas Art et Essai, mention spéciale. Il a gagné des prix à San Sebastian, à Chicago, au Festival de Montclair, au New Jersey. Il a joué au TIFF. Je pense pas qu'il était en compétition, mais il était présenté. Fait que c'est un film qui rayonne à l'international. Fait que, tu sais, attrapez-le quand vous pouvez. Toi, t'as pensé quoi?
Oui, très intéressant, ne serait-ce que par son environnement, sa prémisse aussi. Souligné Payal Kapadia, c'est son premier long-métrage, elle provient du monde du documentaire.
OK.
Fait que je pense que ça sent. Puis d'ailleurs, ça même sent le au début du film, on se demandait si c'est un documentaire ou une fiction, on sait pas trop.
Oui, c'est très... Parce que le film nous présente aussi beaucoup Mumbai, genre.
Ouais.
C'est très unique, c'est ça qui est cool aussi dans le film. Éventuellement, ils s'en vont un petit peu en campagne dans une de leurs activités, fait qu'on voit le côté plus plage. Mais moi, j'ai trouvé ça quasiment oppressant. Autant le rythme est lent et tout, c'est chaud, c'est suant, c'est sale, c'est bruyant. Puis, tu sais, le film d'action avec...
Monkey Man.
Ouais, Monkey Man, c'était comme la même affaire, les mêmes lieux, mais c'était des couleurs blastées à la John Wick, puis tout, puis c'était comme excitant. Là, tu le vois beaucoup plus terne et probablement plus réaliste. Puis comme...
Plus ghetto de Mumbai, là, parce qu'ils sont quand même...
Ouais, ils vivent pas dans les appartements de luxe. D'ailleurs, ça devient un enjeu, la gentrification, puis c'est partout dans le monde. Là. Tu rachètes ça pour faire des gros condos de luxe pour les jeunes TikTokers, puis les riches.
Et surtout là-bas, en plus, c'est différentes castes de population. Là. Fait que, tu sais, pas tout le monde a accès à tout. Fait que, non, puis très bien joué aussi, les deux actrices principales. Là, font un travail super intéressant. Fait que, oui, si vous aimez ça. Le cinéma international, vous voulez être dépaysé un petit peu. Je pense que c'est un film intéressant à voir. Quand même lent, il faut le souligner. Là.
Ouais.
C'est pas un film avec de nombreux rebondissements, mais qu'on se laisse juste explorer cette culture-là. Puis c'est un vrai problème, effectivement, le lien entre les musulmans et les hindous. Et il y a beaucoup de clash dans ces pays-là depuis quelques années. Fait que c'est vraiment une problématique, je pense.
Ah ouais, les problèmes de religion sur la Terre.
Heureusement,
ici, il n'y en a pas du tout.
Il faut dire que ce n'est pas un film Bollywood non plus. Là.
Fait non, vraiment pas.
Parce qu'on est plus habitué. C'est surtout ce qui est importé.
Là,
c'est ça. Fait qu'on est complètement ailleurs. D'ailleurs, il y a beaucoup de critiques de ce coin-là de l'Inde qui disent qu'on a plus l'impression de voir un film français sur nous qu'un film véritablement indien. Là, fait que ouais. C'est quand même... Mais je pense que ça décrit bien.
Avec des discussions professionnelles aussi, le monde m'avait dit ça. Ça tu sais, des pays plus loin, là, c'est sûr qu'ici, des films américains, anglais, français, c'est eux qu'on a le plus. Mais même, mettons, les films allemands qu'on a, souvent, c'est des drames qui se démarquent sur la scène internationale, dans des festivals avec... Tu sais, je veux pas faire de l'élitisme, mais c'est pas les comédies grand public. Mm-hmm. C'est pas, par exemple, on a parlé, c'est pas Menteuse qui va aller gagner au TIFF ou à Cannes.
Ouais.
Il peut gagner un festival de films comiques, mais pas dans le grand cinéma là, avec un C majuscule, mettons. Fait que si t'étais un Québécois qui vivait en France, ben, tu dirais, voyons, les seuls films que je vois, c'est genre les Xavier Dolan puis les films plus lourds. Pourquoi j'ai pas mes comédies? Ben, il me disait ça, tu sais, les gens qui viennent de pays africains, de l'Inde, de même d'Allemagne, à la limite, si t'es ici, tu vas dire, hey, il y a un film polonais à l'affiche. Ben, c'est comme, ben, c'est le gros drame qui parle de la Shoah.
Ouais, oui.
C'est pas la comédie avec l'humoriste, tu sais, parce qu'on les Français, on les importe, ces films-là, parce qu'il y a pas la barrière de la langue. Mais puis ils connaissent pas le même succès, évidemment, là, mais c'est ça. Fait que c'est pour ça que t'es des films indiens, puis Bollywood, il y en a un peu, parce que ça fait jaser les films d'action, maintenant, qu'on voit aussi beaucoup. Mais, fait quoi, pour plein de pays, c'est ça. Fait que notre vision des films internationaux sont ceux faits par les artistes
c'est un peu
très
austère,
à gauche
un petit
et
peu,
tout. Ouais, c'est ça. Ça, que des fois, ils ont une critique sociale à mettre dedans. Il y a pas le film d'action... pas normal, mais tu sais, le blockbuster de là-bas, on l'a pas nécessairement ici parce que les vedettes sont pas connues, fait que ça va pas se transmettre, puis fait que nous, on prend les Américains, puis ça va être ceux-là qui font la job. Tom Cruise!
Et parlons de films qui se distinguent dans les festivals.
Oui, et qui nous présentent un climat et un lieu différent.
Oui.
Le drame danois Kallak de Isabella Eklof. Alors, absolument à ne pas confondre avec Katak.
Non.
C'est pas du tout pour le même public.
Non.
C'est un film danois, mais qui se passe au Groenland. Alors, on suit Yann, qui est aussi un infirmier, qui vient de Copenhague, au Danemark, mais qui s'en va travailler à Nuuk, au Groenland, donc en tant qu'infirmier. Il est en couple, il est père de deux enfants, sauf qu'il ne peut pas s'empêcher de multiplier les aventures sexuelles avec des femmes autochtones là-bas, qui est comme un moyen pour lui de peut-être d'une certaine façon connecter avec la population, qui est naturellement très hostile envers les Danois. Il ne les aime pas, ceux qui viennent des Islanders, là, qui viennent de la Terre, etc. Fait qu'il le surnomme Kallak, mais qui est un mot que tout au long du film, chaque personne a de la misère à définir exactement ce terme-là, qui peut être autant positif que péjoratif. Ça peut être très vrai et authentique ou genre la pire vidange. Fait que c'est ce qui témoigne un peu de son comportement en général, surtout d'être un infirmier qui aide tout le monde, mais que finalement, le soir, il couche un peu avec... Ben, il couche avec les filles en leur laissant peut-être miroiter ce qu'il n'arrive pas à leur donner. Mais à ce moment-là de sa vie, son père lui écrit disant qu'il est mourant puis qu'il aimerait reconnecter avec lui. Et ça va nous permettre de comprendre, dans le fond, les blessures et les abus sexuels qu'il a subis dans sa jeunesse de par son père. C'est donc un film qui est 16 ans et plus.
Mm-hmm.
Ça commence avec probablement l'image la plus choc du film, qui est une scène d'inceste entre son père et lui. Drôle de manière de parler de ça, mais c'est pas un... On disait un peu avant d'enregistrer, c'est pas un viol, tu sais, sauvage dans une ruelle avec quelqu'un qui se fait menotter. C'est vraiment un inceste de forme de genre pédérasterie, là, de genre, nous nous émancipons. Puis, tu sais, il y a plus comme 17-18 ans, là, c'est pas comme avec un enfant de 8 ans, là, mais ça se peut que ça a commencé dès sa maturité sexuelle à 10, 11, 12 ans. Là. Fait que. Ouais, c'est ça. Fait que là, on comprend, puis ça va être dénoué plus tard, vers la fin du film, justement, après la prise de contact avec son père. Mais ouais, c'est ça. Fait que c'est un film qui aborde des sujets lourds, là, disons très difficiles, fait que cette espèce de trauma-là qui revient.
Mais le film n'est pas trop lourdeau.
Non, c'est ça. Ouais. C'est pas un film qui est...
On n'est pas dans le pathétisme.
Sordide, là. Ouais, c'est ça, exactement. Lui, il va pas violer d'autres gens et tout. C'est juste que il se met du monde à dos... Sans le vouloir, peut-être, il serre d'eux un peu, finalement. Fait qu'il est blessé. Fait que c'est un peu quelque chose qui nous rappelle que, ben, tu sais, la violence, c'est cyclique. Là. Ça se transmet un peu, que tu le veuilles ou non, la grande famille des violences, là, mettons, là, pas juste donner des coups de poing pour voler ta boîte à lunch. Là.
Ouais, puis je dirais qu'une grande place est quand même laissée à l'intégration de cette famille-là dans ce nouveau monde-là.
Mm-hmm.
Fait que, on le voit quand même beaucoup dans son milieu professionnel, puis ses relations avec les autres. Fait que ce côté-là, moi, j'ai quand même trouvé ça assez intéressant, bien parce sûr. Qu'encore là, je pense pas qu'il y ait grand film qui a été tourné au Groenland.
Non,
j'ai vu, hein, du moins, si ça existe.
Il y en a vraiment fait peu. Ouais.
Fait que tout ce côté-là était quand même assez fascinant à voir.
Ouais. Je sais même pas si on pourrait faire un top 10. Fait que c'est un film, il a joué au FNC à Montréal il y a quelques semaines, sinon au film international, Festival international de San Sebastian, où il a gagné le prix spécial du jury et aussi de la meilleure cinématographie. Mm-hmm. J'ai lu sur le site de Mediafilm, ils ont posé 8 questions à Isabella Eklof. Puis c'est sûr que le cinéma qu'elle comparait, c'était beaucoup des choses que j'ai jamais vues puis que je connais pas. Puis il y a du Bergman puis des choses comme ça. Fait que c'est un peu ce genre de cinéma-là. Là, comme je dis, elle parle pas de Forrest Gump là, dans ses critiques. Mais elle dit que récemment, elle est très admirative justement de Jonathan Glazer pour l'audace qu'il a eu à faire Zone of Interest. Puis qui est un film qu'on a quand même beaucoup vu ici, là, qui a été mis de l'avant avec ses Oscars et tout. Fait que... je trouvais que c'est un bon comparatif de ben, on n'est pas dans la Shoah, là, mais qui parle de la manière de raconter des tabous, un peu, mm-hmm. si on veut, là, justement. Quand on parle d'audace, là, je trouve qu'il y a ça un peu dans son film aussi. Le film ne va pas tout dénouer non plus, puis tout répondre. Puis c'est super bien joué par le comédien. J'ai noté son nom, il me semble. Émile Janssen. Parce qu'il a l'air amorphe, mais avec ses petits cheveux frisés un peu trop longs, que ça fait longtemps qu'il est allé chez le coiffeur, puis tout, il a l'air dépassé partout, mais en même temps...
Ça me faisait penser à... contrôle. C'était Stewart dans The Big Bang Theory.
Ah, j'ai pas assez écouté, je sais pas.
Qu'il faisait penser à lui. Mais
moins de jokes, ça c'est sûr. Moins de jokes, pas de rire en canne qu'à Lac.
Mais physiquement, avec son regard assez particulier... comme je dis, encore là, un film qui bouscule un peu les conventions par sa thématique, mais par intéressant, fascinant à voir par son environnement, sa géographie. À noter que c'est aussi tiré d'une autobiographie de l'auteur Kim Lainé, qui est aussi co-scénariste du film, qui a vraiment vécu tout ça. Donc, lui, il provenait d'une communauté de témoins de Jéhovah, donc abusé par son père. Fait que tout ce volet-là est très vrai et tout ça. Fait que voilà.
Fait que dans les deux cas, pour Au-delà de la lumière et Kallak, ben c'est des films qui, sans surprise, prennent l'affiche sur 3-4 écrans cette semaine. Montréal, Québec, je pense Sherbrooke. Fait que c'est dans les grands centres que ça se passe. Là. Ouais. C'est du film de répertoire, comme on dit, sans être. Sans vouloir diminuer, ça par rapport avec la qualité, c'est juste l'exposure des films. On l'avait mentionné un peu dans les dernières semaines que, tu sais, là, il va y avoir aussi des grosses sorties le 20 décembre pour les fêtes, mais sinon, là, le 29, le 6, le 13, il y a des films un peu plus indie qui vont peut-être passer plus en coup de vent, fait qu'on va essayer de bien vous les présenter. Il y a vraiment des belles pépites là-dedans. D'ailleurs, la semaine prochaine, on parle de Comme le feu de Philippe Lesage, qui est aussi un film québécois qui a peut-être pas autant de rayonnement ici qu'un Berger ou que Mademoiselle Bottine, mais qui est déjà à l'international, a laissé sa marque, a gagné des prix à la dernière Berlinale. J'ai discuté avec l'équipe, fait que ça, je vais essayer de mettre l'épisode en ligne au début de la semaine, fait qu'il n'y a pas de spoiler dedans, de mémoire. Vous pouvez l'écouter avant si vous souhaitez en apprendre plus. Si vous êtes convaincu d'aller voir le film, ben à ce moment-là, je conseille toujours plus après nos épisodes, vu qu'on parle un peu de behind the scene, derrière le rideau. La jeune femme à l'aiguille, qui est aussi un film très niché, qui est en fait, c'est lui qui va être la soumission du Danemark aux Oscars, ce n'est pas Kallak. Un de mes films préférés de l'année, très weird, film en noir et blanc qui se passe à la Première Guerre mondiale alors que l'avortement est illégal et tout. Bien hâte que tu vois ça, puis comme je pense que je vais le réécouter pour... on commence à se préparer pour notre top de l'année, puis faire « Hey, c'était-tu juste l'effet surprise la première fois? Est-ce que à ce point-là, faudrait que je me fasse une idée à quel point j'ai adoré ce film-là? » Fait que ça, et sûrement d'autres surprises pour le 6 décembre. Comme d'habitude, contactez-nous, écrivez-nous balado@monciné.ca et suivez le magazine Mon Ciné sur Facebook et Instagram. Et procurez-vous gratuitement le magazine Mon Ciné, la nouvelle édition avec Antoine Bertrand et son beau chapeau, qui d'ailleurs, c'est à peu près le même chapeau que Dominique James avait dans la tournée promotionnelle.
Ah oui, t'as remarqué.
Un beau chapeau élégant, feutré, là, et tout. Fait que, ça doit pas être le même littéralement, mais c'est un peu le même style. Mais Antoine l'avait pas dans la tournée promo, il l'avait juste pour le shooting photo. Bref, avec le magazine qui est disponible en version numérique ou physique dans votre cinéma favori ou dans les souvent dans les commerces autour de votre cinéma favori. Logiquement, des fois, pour faire un petit coup de pub, les pharmacies, les cafés, café troisième vague. Visitez le monciné.ca pour plus d'informations.
Sur ce, on vous souhaite bon cinéma, bon popcorn, et si jamais vous êtes en manque d'inspiration, là, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à adopter une fillette.
C'est très égoïste.